Ainsi va la France, ainsi va le progrès. Nous n'avons pas à être pour ou contre.
On nous prend pour des fous de l'aviation, de la même façon qu'on a pris les premiers automobilistes pour des fous de l'automobile, si on veut. C'est le premier club à posséder un terrain particulier, réservé, spécifique à l'ULM, alors que la plupart des clubs qui sont et des écoles qui existent actuellement sont sur des aérodromes. Disons que c'est la formule qui a été choisie pour nous parce qu'on trouve que c'est quand même plus sécurisant d'être seul à pouvoir utiliser notre espace. Se trouver en face d'un avion de ligne, c'est quand même assez impressionnant, donc on a préféré être sur un terrain privé.
De ces deux concours, je conserve l'impression du trouble que j'éprouvais lorsque l'on donnait lecture du texte à traiter. Les mots n'avaient plus de sens pour moi. En rentrant dans ma loge, il me semblait que je n'arriverais jamais à terminer l'épreuve. Instinctivement, j'apprenais le texte par cœur. Je le récitais à haute voix, plusieurs fois. Et alors, peu à peu, les mots vivaient. J'apercevais les couleurs des paysages, les silhouettes des personnages. Je n'avais plus qu'à travailler.
Dans les Dipanam, Lefebvre montrera la vieille salle de l'Olympia et le Faubourg Saint-Martin. Il les montrera non pas tels qu'ils sont, mais tels que je les vois, à travers des souvenirs qui ne sont peut-être que d'anciens rêves. Chacun d'entre nous porte en soi une image de Paris qui ne ressemble à aucune autre, car si nous avons tous le même Paris, nous n'avons pas tous les mêmes yeux. Je ne parle pas de certains metteurs en scène qui, eux, n'ont pas d'œil du tout.
L'intérêt supérieur de l'art nous autorise-t-il pas à faire un mouvement que nous voulons, parce que nous avons trop souffert, non seulement dans nos intérêts, mais dans nos consciences d'exécutants d'ouvriers d'art. Au premier chef, nous, artistes d'un théâtre, interprètes de chefs-d'œuvre, avons le droit de juger et de parler. Nous jugeons M. Gueuzy sans doute comme un mauvais payeur, mais aussi comme un traître à la mission que le gouvernement lui a confiée. Nous faisons pleine confiance au gouvernement actuel pour nous tirer d'une situation intenable. Bravo!
Nous avons décidé de faire campagne dans cet arrondissement, car la jeunesse est avec nous, et la jeunesse, c'est l'avenir de la France.
J'ai fait mes études à Florence et j'ai été pendant 10 ans professeur à l'Institut français de Naples. Mais j'ai obliqué ensuite et j'ai choisi d'enseigner la littérature française, le français, ce qui me paraissait plus intéressant et davantage dans mes aptitudes puisque je suis un écrivain.
J'avoue que je suis un peu troublé pour des tas de raisons. D'abord parce que je joue un classique et chaque fois que je joue un classique, j'ai toujours le trac. J'ai appris ces rôles-là au conservatoire. Je l'ai joué il y a 28 ans à l'Odéon, mais chaque fois que je le joue, j'ai tout de même un grand trac. Et je l'ai doublement parce que aujourd'hui, c'est sur les marches du palais de justice où il y a beaucoup de juges, des juges qui peuvent être très sévères, comme vous pensez. Et puis alors, c'est tellement grand, nous avons un plateau qui a 14 mètres de longueur, il y a des marches, c'est effrayant, on fait des courses à pied, on est essoufflé.
Je suis en France depuis 1902. J'étais venu pour y étudier, je comptais séjourner un an à peine. J'y suis encore.
Il est très différent par sa présentation, mais pour moi, il est de la même famille spirituelle que les autres zigzags. C'est-à-dire, depuis très très longtemps, on me demandait si je ne pouvais pas trouver une autre formule que le cabaret-théâtre, parce que on la voyait enfin, dans beaucoup d'endroits, cette formule avec des sketchs très rapides, des opéras bouffes, enfin le fameux zigzag. Alors c'est pas une espèce de pari, mais enfin c'est le résultat d'une boutade. Enfin, un journaliste m'avait demandé, vous qui avez trouvé cette formule du cabaret-théâtre, vous ne pouvez pas trouver autre chose. Je lui ai dit, c'est extrêmement facile, au lieu de faire du cabaret-théâtre, je ferai du théâtre cabaret.
Oui, on essaye de tenir les plus vieilles traditions que l'on peut, qu'est-ce que vous voulez. Moi, je me maintiens, qu'est-ce que vous voulez. J'ai une clientèle qui me demande ça et qui se trouve bien, et de plus en plus, je crois. On ne peut pas avoir la quantité et la qualité. Je me maintiens dans un petit travail artisanal, dans mes possibilités, et je ne veux pas les dépasser.
Je suis né le 1er septembre 1892 dans une cave, en roc, où il y avait la cheminée. Une cave de paysan. Et je ne vais pas vous dire que je me rappelle du jour où je suis né, non. Mais enfin, quand même, je suis comme les vieux paysans, un vieux dicton. Dans la cheminée, il y avait des guêtres accrochées. Vous savez, des guêtres de paysans qui étaient pleines de terre.
Oh, ben on a fait des progrès, n'est-ce pas, sous ce rapport-là. Certainement, de mon temps, on faisait de la médecine, mais difficilement.
Le premier moment, je fais cuire énormément mon pain, au maximum que je peux, et j'ai un vieux four, et je crois qu'il n'y a rien de mieux pour le faire. C'est pas que je fasse contre le modernisme. Moi, j'ai toujours travaillé toute ma vie. Je travaillerai certainement encore longtemps, j'espère. Mais je veux contenter et j'estime qu'on peut le manger.
Alors, là, je dis, mon vieux, te voilà foutu. T'es encore un paysan, faut que tu y restes. Et tous les troglodytes de notre coin sont presque tous des paysans. Mais les paysans, il n'y en a bientôt plus. Et les troglodytes, maintenant, ils sont habités par des vilotins. C'est-à-dire, permettez-moi l'expression, par des gens de la ville qui viennent passer leurs vacances.
Nos anciens faisaient aussi des paniers avec de la viande, cette plante grimpante, hein, et en viande et en osier.
C'est la fameuse plante quand on est tout gosse, n'est pas, et qu'on désire fumer, qu'on en prend un petit morceau et qu'on essaie d'allumer, c'est ça.
Pendant ce temps-là, les vieux, ils faisaient les paniers et puis les petits corbeilles.
Pendant ce temps-là, ils faisaient les paniers, oui, c'est
et nous, on fumait, en cachette.
Mon cher ami, le sujet au théâtre est sans importance aucune. Le théâtre est le premier des arts, il doit ennoblir ses sujets, qui doivent toujours rester ainsi dignes de leur époque. Il doit avoir en soi une dignité, un rythme, une élévation, une indépendance vis-à-vis du public, vis-à-vis des circonstances.
Il y a quand même la liberté. Il y avait cette liberté qui était liberté chérie, qu'on disait dans le temps, hein. Alors ça l'était, la liberté, véritable liberté. On n'avait presque pas de contraintes.
Mes parents avaient énormément de mal. Et encore ça va parce que nous étions deux, ma sœur et moi. Mais autrement, ceux qui avaient beaucoup de gosses, et il y en avait des familles nombreuses, ben, ça ne devait pas être rigolo parce que mon père gagnait, qui travaillait, il gagnait 12 et 14 sous de l'heure. Et ma mère travaillait des nuits entières des fois pour gagner 4 francs. Mes parents faisaient des sacrifices, mais vous savez, les gosses, on ne s'en aperçoit pas, on pense qu'au jeu.
Ils jouent pour que montent, fichier. Ah oui, ils ne nous laissent pas. Ils montent le pen, ils montent tous les mercredis, vous voyez. Des fois, ils ne peuvent pas venir jusqu'ici quand il y a plein de la neige. Et mais ils viennent au croisement des routes là-bas. Alors il faut aller au croisement des routes pour se servir.
Une vie commence ce soir dans un lieu inconnu, dans des lits froids. Oui, mais c'est une vie nouvelle. C'est le soleil qui marquera sur le mur un chemin nouveau, des sons nouveaux au lever du jour, une chambre nouvelle de travail qui regardera le sud. En route, notre aventure, d'un arrondissement à l'autre, vaut une traversée.
On faisait notre peine et on tuait notre gros cochon. Et on mangeait ce que l'on avait, et on faisait un peu de provisions avant, et puis allez.
Même les gens pauvres étaient gays. Ils chantaient, on sifflait dans la rue. Ils étaient pauvres, mais ça ne fait rien. Ils s'amusaient tout de même.
Si, avant d'aborder le roman, j'ai fait beaucoup de vers. Mais comme on m'a dit qu'ils étaient mauvais et que je l'ai cru, j'ai donc renoncé à écrire de longs poèmes, ce que je faisais dans ma jeunesse, et je me suis consacré entièrement à la prose, c'est-à-dire au roman.
Il n'y a pas très longtemps que j'ai vendu mes vaches, moi. Depuis qu'il est venu au régiment, encore je les ai gardées.
Et il n'y avait pas de la viande tous les jours, mais enfin, sûrement, qu'encore quand je mangeais de la viande, et puis ma soeur aussi, et ben c'est parce que mes parents se privaient. La seule petite chose qu'il y avait, c'était le dimanche. Le dimanche, c'était un petit repas. Ce n'était pas la poule au pot du roi Henri IV, mais enfin, ma mère faisait un poulet. Puis il y avait des petits gâteaux. Les gâteaux, ça coûtait 2 sous, mais c'était quand même 2 sous.
C'est une commune à vocation rurale, axée sur les vins, puisque nous sommes en région de vins. Mmh. Et maintenant, la proximité de la ville de Bordeaux amène des personnes dans des lotissements. C'est plus ou moins bien incorporé à la vie communale. Et puis, l'évolution étant ce qu'elle est, le visage de la commune change. Il n'y a plus le noyau, il n'y a plus les artisans, il n'y a plus... Enfin...
Nous chantions anguilles, oiseaux de passage, profitons de nos 20 ans. Je ne sais pas si vous vous représentez des oiseaux de passage qui profitent de leurs 20 ans. Ça doit être un peu déplumé. Et ça finissait par vive champagne et piston, ton, 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 ton.
Je suis mal à l'aise, je ne me sens plus, je sens plus d'identité, je sens plus de racines. Et moi, j'ai besoin de racines. Oui. Pour vivre à un endroit, j'ai besoin de racines. Et c'est pour ça que maintenant, il y a quelque chose qui ne va plus.
J'ai été touché d'une façon sentimentale assez désagréable quand toute cette organisation s'est intéressée à ce fleuve, à cette eau qu'on reprend, qu'on rejette, qu'on utilise, qu'on turbine. Voilà, le véritable mot d'ingénieur, c'est nous allons turbiner l'eau de la Durance. On ne la fait pas turbiner, mais on la turbine. Elle produit comme ça des kilowatts.
En ce qui concerne tous ces travaux d'artisans, ce qui est certain, c'est que alors qu'il y a un siècle, pour prendre une date de référence, il y avait je ne sais pas, dans chaque village, plusieurs artisans, chacun ayant sa spécialité. Il est certain que même si certaines choses ont repris ou ont continué, le nombre d'artisans dans les villages a considérablement diminué.
Oui.
La spécialisation s'est reportée à la ville. Alors, il y a le mécanicien, qui est un nouvel artisan du village, mais à part lui...
En 10 ans d'ici, quand les vieux artistes n'ont plus, eh bien, les métairies, vous allez voir les métairies fermées des campagnes.
Vous avez été très célèbre au temps de Henri Lecat et ses rites.
Oui, c'est-à-dire au temps des années noires de la guerre. Et en effet, j'étais le chanteur de l'orchestre Henri Lecat pendant 4 ou 5 ans, donc pendant les années de la guerre. Et puis je me suis retiré, je dois le dire, parce que mes occupations professionnelles passaient avant toute autre chose.
Oncle, père ou fils, dans les moulins, il y a Kevin Baptiste, depuis 200 ans, ça existe à peu près. 200 ans, moi je n'étais pas né. Eh bien, mon père a suivi la tradition d'arranger les moulins, et moi je continue. D'un plaisir, je l'aime bien. Et maintenant, après moi, je ne sais pas qui est ce qui s'en occupera. Peut-être on trouvera quelqu'un. Mes enfants ne sont pas à ce côté-là.
Oh non, mais ça c'était une organisation l'été ici à Chamonix. Tous les chamouniards étaient guides et ils partaient. Et ils faisaient quand même, il y avait les femmes qui faisaient quand ils n'étaient pas là, etc. Puis ils s'entraidaient énormément dans un village. Quand un guide était au Mont-Blanc, par exemple, s'il y avait du foin à rentrer, tout le village s'y mettait. Mais quand il redescendait du Mont-Blanc, son foin était tout rentré.
Mon plus grand plaisir, oui. Me sauver.
Aller dans la rue.
Ah oui, 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 me sauver, j'aimais bien moi partir. J'allais fuguer, comme ça je filais avec mon frère. J'entraînais mon frère qui était beaucoup moins fugueur que moi. Mais fuguer, simplement d'être à Belleville, d'être ici au but de Chaumont, c'était déjà une thérapeutique, parce qu'on pouvait fuguer ici, c'était extraordinaire. D'ailleurs, je vois presque moins d'enfants qu'il n'y avait avant. Avant, c'était rempli d'enfants, il y avait des bandes d'enfants. Je me rappelle que nous, on sortait de la rue Simon-Bolivar par bandes énormes, des bandes rivales d'ailleurs.
J'en suis doublement heureux. Parce que son souvenir est intimement lié à mes souvenirs de jeunesse, au temps où j'étais un de ses élèves dans la vieille et chère école de la rue d'Ulm.
On avait d'abord eu un peu l'impression que le ballet avait été quelque peu absent des soins des organisateurs des fêtes de l'œuvre du XXe siècle. Et quelques-uns avaient manifesté leur émotion. Mais les amateurs de danse commencent à se rassurer. Le ballet est présent au programme.
Il y a une différence de qualité dans l'état du fleuve actuel. On le sent maintenant domestiqué, on le sent maintenant devenu une sorte de prolétaire. Il a perdu de sa beauté, de sa noblesse, de sa qualité ancienne. Il est maintenant un homme, un fleuve qui travaille, un fleuve qui passe dans des tunnels.
Les gens avaient une espèce de quiétude instinctive, car ils savaient d'expérience que même en cas de fauche totale, vraiment quand si le drapeau noir flottait sur la marmite, ils savaient qu'ils avaient les voisins qui viendraient à la rescousse.
Voyez, mon grand-père, quand il battait au fléau à la grange, pas, sa femme qui mettait cuire sa soupe, n'est-ce pas, pendant que la soupe cuisait, elle montait vite à la grange, tapait au fléau un peu avec lui pour que ça avance un petit peu. Vous savez, c'est l'éternelle entraide entre le mari et la femme. On ne pourra jamais rien y changer.
Il y a toujours eu de bons élèves, mais ils étaient... pas exactement paresseux, ils avaient d'autres centres d'intérêt que la culture classique. Tandis que moi, j'étais prof pendant les premières années d'occupation, j'étais prof de 40 à 42. Alors il y avait beaucoup de réfugiés israélites, beaucoup de réfugiés de familles de parisiens, comme ça, et ça créait avec les Arlésiens une certaine émulation. Alors moi j'étais prof d'anglais, en plus il y avait le fait d'enseigner l'anglais sous l'occupation, ça avait un petit côté non conformiste, et les gosses travaillaient, et effectivement les 2 années où j'ai fait passer le bac, dans ma classe, tout le monde a été reçu.
Baptistin Travail, ça c'est une affaire formidable, ça. Baptistin Travail a été un personnage considérable. Baptistin Travail a fait couler beaucoup d'encre aux journalistes. C'est le premier qui a utilisé le chalumeau citrique pour découper les coffres-forts. était le premier.
Mon grand-père avait un petit cabanon qui jouxtait le parc de Montauban. Et chaque fois que Daudet était à Montauban, qu'il allait promener vers la colline, il voyait mon grand-père.
Oui, alors, excusez-moi. Daudet, le moulin, est-ce qu'il a habité le moulin est-ce
que... Non, le moulin, il n'a jamais habité parce que Daudet a fait, il a fait comme tout écrivain, comme vous faites vos doigts. Il a inventé son moulin en ruine parce que quand Daudet venait, les quatre moulins que nous avons à Fontvieille, qui sont maintenant en ruine, étaient encore en toute activité à l'époque.
Les bonnes femmes faisaient la queue. Elles n'avaient pas le temps d'éplucher leurs légumes verts. Alors elles montaient avec des filets au poulot et puis elles écluchaient à l'entraide. Elles épluchaient les petits pois, les haricots. Puis...
Si vous avez des moustaches, vous passez une main à droite, une main à gauche. Vous essuyez vos moustaches. Si vous êtes distingué, vous tapotez délicatement, n'est-ce pas ? Vos lèvres, vous tirez votre serviette et satisfait de vous-même, vous dites ce que l'on disait en patois autrefois, l'utems, que c'est adoucit. Et qu'il pleuve ou qu'il vente, vous trouverez qu'il fait bon et vous êtes content d'avoir mangé cette garbure.
Alors j'avais un autre frère, là, il avait le même bateau, c'était la même marée. Là. Alors il était les deux frères ensemble, Marcel et Piogène. Alors il avait tellement froid aux mains, là, le plus vieux. Tous les 3-4 filets, là, il disait, oh, on va arrêter parce qu'on va faire un coup de vin chaud parce que moi j'ai trop froid. Alors il faisait une froid comme j'ai jamais vu.
Oui, il faisait au moins
15. Oh oui, il faisait au moins 15 au-dessus de zéro. Ouais. Alors c'était réellement, c'était formidable de voir ça. En arrivant, pas difficile, on l'avait livré les mesures de rang, là, on l'avait fait tel prix. Alors après, ils ont été forcés de les peser parce qu'ils n'avaient pas leur compte. Quoi. Alors on l'a pesé le harangue pour mettre.
Et les gens vivaient presque sans argent. Ils avaient comme, rapport, ils avaient la vente du lait, enfin, la vente des animaux à l'engrais, quelques animaux à l'engrais. Ils vendaient des volailles en petites quantités, des oies, des canards, des poules, tout un peu. Et puis ils faisaient la chasse et la pêche.
Avant ?
J'étais jeune. Maintenant je suis vieille. Un jour, vous aussi, vous allez dire « Avant, j'étais jeune, maintenant je suis vieux. » Moi, je pense que c'est pas mal maintenant.
Et vous, madame ?
Maintenant, il y a trop de choses, tout est plus compliqué. Ben, vous voyez bien, on vivait décontracté plus que maintenant.
Autrefois, ces vieilles cheminées, il était accroché les andouilles, on tuait le cochon, et on accrochait les andouilles dans la cheminée, qui était fumée au serment de vigne.
Le jour de Noël, c'était une grande fête. Une grande fête pour les petits-enfants aussi, et les grands, bien entendu. Car il en venait, ce jour-là, de partout. Du village, n'en parlait, personne ne manquait. Mais aussi des environs, des fermes, des villages même, qui venaient parce que on faisait une petite cérémonie.
Les vendanges, vis-à-vis de ce qu'il y a 30-40 ans que je me rappelle, il y a une grande différence déjà en point du travail. On avait les chevaux à ce moment, il fallait rentrer tout ça avec les bêtes. Notamment couper le raisin, il faut le couper comme dans le temps, ça c'est certain. Ce qui est beaucoup plus facile, c'est pour charrier le raisin et surtout pour le pressurage. Dans le temps, on avait des vieux pressoirs qu'on tournait autour. Et puis maintenant, on a des pressoirs automatiques, électriques, et ça va beaucoup plus vite et beaucoup moins fatigant.
Il y avait des enfants comme vous, habillés en berger. Avec un grand chapeau, une canne et un petit agneau bien frisé avec de petits nœuds de ruban bleu, rouge, etc. Qu'un berger portait dans ses bras parce que c'était pour les bergers. L'envie pour chacun de présenter le plus beau. Le plus gentil, le plus mignon, celui qui écoutait lorsqu'on l'appelait, frisé avec de petits rubans bleus, de petits rubans rouges, etc. Et celui qui avait porté le plus beau, était fier, parce que tout le village en parlait.
On mangeait peut-être moins, mais c'était bon.
Avant, on pouvait bouger, on pouvait parler aux gens dans la rue, comme on le fait maintenant. Ça ne se fait plus. c'est pas pareil, hein, oui, maintenant.
Chacun chez soi.
Un jour, Coudière, il était, à l'époque, il tenait son salon de coiffure, et il m'a dit la chose suivante. Quand j'étais petit garçon, je commençais le métier, et je faisais des barbes avec mon grand-père. Et mon grand-père, lui, une cinquantaine d'années avant, faisait des barbes avec son propre grand-père. Et le grand-père de mon grand-père faisait des barbes avec son propre grand-père. De sorte que tout ce qui s'est passé à Fontvieille depuis la Révolution française, je le connais par cœur. Alors, ce qui s'est passé avant la Révolution, je le sais aussi, mais ça manque de précision et il y a des périodes que je connais moins bien. Mais depuis la Révolution française...
Voyez-vous, ces gens-là, ils piquaient dans le temps, l'hiver. Alors, ils s'entendaient. On allait piquer chez l'un le soir, le lendemain chez l'autre. Et pendant ce temps-là, les femmes, à ce moment-là, filaient. Et au soir, c'est-à-dire vers minuit, 1h du matin, on s'assemblait, on mangeait de la rillette, et on buvait un coup de vin blanc, et chacun s'en allait se coucher. Et le lendemain, on recommence à piquer dans la cave de l'autre, et ainsi de suite. On s'entendait mieux que maintenant.
Autour des moulins, on ne voyait que des grands champs, des champs de blé, comme à la campagne, dans la rue de Pique. Il n'y avait pas de pavé.
Ah, quand j'étais toute petite, c'était pas la même chose. On était en famille. Mes parents sont très, très religieuses. On a eu des pommes, des noix. Et puis, mon père était ailleurs, il gagnait bien, vous savez. Alors, que voulez-vous?
C'était mieux.
Allez, Lucienne.
Transpire.
Loin,
tout ça.
Elle a travaillé de 13 ans jusqu'à 60 ans dans la même maison.
Et toujours fidèle. Hein. La marque Mignon, je ne sais pas si vous avez connu. Là, j'étais emboîteuse. Voilà. C'était du luxe que l'on faisait. Il fallait faire beaucoup d'heures.
Oh, je ne dis pas qu'on pouvait gagner beaucoup d'heures. Oh.
Elles étaient mal payées.
Oui, elles étaient mal payées, mais elles gagnaient quand même sa vie, c'est tout.
On a joué aussi avec des bulles de neige, avec les gosses. Et puis pour Noël, on est allé dans les maisons, on a chanté. Et puis on a eu 10 centimes là, 10 centimes là. Et puis avec tous ces sous qu'on a eu, on a acheté ce qu'il nous fallait pour aller à l'école.
Mon papa était piégeur. On dit trapper, vous dites en anglais alors. Mais il piégeait les ramusqués, les muskrats, les blettes. C'est un mink en anglais, mais moi je ne sais pas, les Français n'ont pas le mot blette. Mais c'est toujours comme ça que nous autres on les appelle, blette ici. Et les chawis, qui est un raccoon, on appelle ça un chawis, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça qu'on les appelle.
On confesse maintenant les gens en groupe dans l'église, alors les confessionnaux servent peut-être que pour les anciennes personnes qui ont encore leur habitude, qui ne veulent pas changer ce qu'on fait en public comme ça.
S'il faisait trop chaud, il est aussi bien à l'ombre se reposer. Enfin, ça se fait bien. Et puis si, en même temps, il y a quelqu'un qui arrive, qui porte un sac de blé ou un sac d'orge, mais si tu donnes un coup de main, on a plus vite fait.
Alors, il piégeait pendant l'hiver, il faisait la chasse aux canards. On disait toujours les canards français, c'est les canards du Canada. Qui viennent ici tous les hivers. Et il allait à la pêche pendant l'été, il faisait la récolte, c'est tout ce qu'il faisait.
Une grand-mère luxembourgeoise qui nous a élevés et qui nous a raconté tout son passé de petite fille besogneuse, tout d'abord, et puis alors quelque chose qui se passe pas du tout pareil par chez nous, tout au moins à l'époque, des balles grandes de ce que nous avons ressenti, nous.
Ah, c'est tout rempli de café, hein, monsieur, ici. Des cafés, il y en a tout partout. Comme il n'y a pas d'autre distraction que d'entrer dans le café, de chanter un petit morceau, c'est la vraie vie lilloise, hein, ça.
Bon, tous c'est les hommes les plus âgés, ils jouent un peu au cœur. Mais quand ils arrivent au souhait, les femmes, ils venaient nous, tu sais, rechercher, par exemple, moi, je vais parler pour ma famille. Hein, on allait rechercher mon père dans ce café, ma mère, avec les enfants, tu sais, on buvait un petit canon comme ça tous ensemble, et puis après...
C'est un grand dommage, parce que les gens sont toujours sensibilisés aux moyens naturels de guérison que sont les plantes. Ça n'empêche pas les progrès de la médecine, mais enfin, les gens aiment bien retrouver dans les plantes, ces moyens qu'ils ont toujours eu à leur disposition, que ce soit chez les herboristes ou même dans la nature.
On a fui les campagnes en supprimant les écoles, comme on a fait, et en réduisant le nombre des enfants. Ici, quand je suis arrivé, il y avait 55 gosses à l'école. Et il y avait encore un certificat d'études, il restait jusqu'à 14 ans. On les envoie dans les lycées à 10 ou 11 ans, finalement, ça tue complètement toutes les campagnes. C'est pas Carouffinac, c'est partout comme ça.
Dans le Nord, on ne peut pas dormir. Il y a des poussins, les barges qui travaillent jour et nuit. Il y a des fois 2h du matin, on est en train de dormir, on attend pas tout cuire au mur, on doit regarder au corps. Et puis quand on a rattrapé le sommeil, 2h après, ça allait un peu faire froid.
On rentrait pas dans un magasin, je vous réponds, sans lever le béret pour dire bonjour monsieur dame, parce que si un tuteur s'était trouvé par là dans le coin, ben, le lendemain, il nous cueillait à l'école. Hein. Maintenant, je ne crois pas qu'on leur dise grand chose. Ça sort de l'école comme un troupeau de vaches, et ainsi de suite.
J'allais chez le curé. Et chez ce dernier, je trouvais un homme charmant, très sympathique, de taille et de poids respectable. Il avait avec lui une bonne d'âge canonique, comme il se doit. Et cette bonne, nous voyant si jeunes, tous les deux, revint le lendemain.
C'est l'école de Montmorency. Elle a été bâtie environ en 1859. Ma grand-mère était les premières à y venir. Et alors, il y avait des grandes tables de 6 élèves, je les ai encore connues, j'en côtais dedans en 18. Et alors, ma grand-mère racontait que quand un gosse, le maître d'école lançait une gifle, toute la rangée éboulait.
Je me souviens, et nous apporta d'un côté une glousse, et de l'autre côté, dans un panier, 12 petits poussins. Je la remerciais, comme il convient, et devant notre air embarrassé, aussi bien mon air à moi et celui de ma femme, elle nous dit, mais enfin, si vous ne savez trop où les mettre, et évidemment, nous ne savions pas où nous avions encore le poulailler.
Les gens cultivaient, mais des petites superficies, parce que ça se faisait tout à la bêche, vous comprenez ? Alors, quand une personne avait labouré dans sa journée 50 centières, de la, vous la voyez, de la terre, de prairie comme ça. Il avait travaillé. Ça travaillait, vous savez, il fallait travailler pour le faire. Oui. Alors, comment on en faisait en petite quantité? Eh bien, on faisait pour produire des légumes, pour, comment on dit, alimenter la maison, enfin la famille, c'est plutôt. Puis pour faire des réserves pendant l'hiver.
Si vous ne savez pas où les mettre, je vais vous les garder et chaque mois, je vous apporterai un poulet. Elle tient parole. Et un mois après, nous vîmes arriver la bonne avec un magnifique poulet, un poulet de grain. Ce n'était pas le poulet aux hormones d'aujourd'hui.
Et les artisans, on le regrette après qu'ils sont disparus parce que justement, on n'a plus le même bon service qu'on avait. On avait le vrai responsable immédiatement, tandis qu'après, on arrive à une administration où on n'a jamais le bon Dieu, on a toujours les saints.
Je trouve que le passé et le présent forment une grande chaîne où les maillons doivent se resserrer. Si cette chaîne se brise, nous sommes coupés de nos racines et ça prouve que beaucoup de jeunes gens actuellement sont tellement tristes et moroses parce qu'ils n'ont plus d'attache, ils n'ont plus de passé, ils ne savent pas à quoi se rattacher.
De notre temps, disent souvent les grands-mères, la préparation du pain était plus longue et plus difficile, mais le pain avait un autre goût que celui d'aujourd'hui.
Les enfants, on les met beaucoup trop vite à l'école, on les sépare de leurs parents, ils ne peuvent presque plus rien apprendre des coutumes, des us, de temps passé.
Eh bien, j'ai été chez les sœurs jusqu'à l'âge de 4 ans. De 8 ans, oui, c'est 8 ans. Parce qu'il y avait beaucoup de pensionnats dans le quartier. Il y avait la pension des Ursulines, qui était, alors là, c'était le haut gratin, et les filles de commerçants riches, c'était très cher.
C'est de la terre qui, depuis que la terre existe, si vous voulez, depuis le dessèchement de la baie de l'Aiguillon, qui n'a jamais été cultivée, qui a toujours été en élevage, et puis autrefois, si vous voulez, qui n'avait pas de contrôle, c'était un vrai cimetière à bêtes. Les bêtes crevaient, on les laissait sur le terrain, les oies crevaient, on les laissait sur le terrain, rien n'était rentable. C'est un progrès, je dis que c'est un progrès.
Hélas, après la séparation de l'Église et d'État, tout a changé. La pauvre sœur est décédée, elle est tombée raide. Quand ils l'ont envoyé. Ça fut dans le quartier, si vous avez vu, mais c'était plutôt socialiste que royaliste.
Cette aventure inattendue a dû vous rappeler certains mauvais souvenirs.
certes, mais je ne m'attarde jamais aux choses passées. À quoi bon revenir en arrière quand devant nous tant de tâches pressantes s'imposent?